Volume 6, Les œuvres de George Fox, livre Doctrinosi, suite concernant l'antiquité du peuple Dieu appelé Quaker, leur culte, leur mère, la nouvelle Jérusalem céleste, leur foi, et qui en est l'auteur et le consommateur, leur croyance, leur voix, leur origine, leur espérance, distincte de l'espérance de l'hypocrite qui périt, leur évangile, les vrais ministres, leur guide et maître, et ce qui leur donne à connaissance, leur médiateur, leur surveillant, la prière de l'Église du Christ, et en quoi consiste leur croix et leur baptême. Par G. F. I. Concernant l'antiquité de notre culte, c'est celui que Christ a établi il y a plus de 1600 ans, lorsqu'il a aboli le culte des Juifs au temple de Jérusalem et le culte des Samaritains sur la montagne du puits de Jacob, disant « L'heure vient, et elle est maintenant, où ceux qui adorent le Père doivent l'adorer en esprit et en vérité. » Et ce culte, en esprit et en vérité, est au-dessus de tous les adorateurs selon leur volonté, et des adorateurs du dragon, et des adorateurs de la bête, car Dieu a répandu de son esprit sur toute chair, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Cet esprit et cette vérité sont dans les cœurs et les profondeurs intérieures des gens, afin que par cet esprit de vérité, ils connaissent le Dieu de vérité, et que dans l'esprit de vérité, ils servent et adorent le Dieu de vérité, de cette vérité pure et de ce saint esprit, le diable, l'esprit impur, et tous ses adorateurs sont dehors et ne peuvent y entrer, car il n'y a point de vérité en lui. Et voilà notre culte pur et parfait, dans lequel nous demeurons, que Christ, le Fils de Dieu, a établi il y a plus de 1600 ans. Y, concernant l'antiquité de notre religion. Laquelle a été établie par Christ dans ses apôtres il y a plus de 1600 ans, eux qui disaient que la religion pure et sans tache devant Dieu, la voici, visiter les veuves et les orphelins, et se garder soi-même sans tache du monde. Et cette religion pure et sans tache, qui conduit à visiter les veuves et les orphelins, est au-dessus de toutes les religions impures, vaines et souillées, qui ne tiennent pas en bride la langue des hommes ni ne les gardent des souillures du monde, et leurs veuves et leurs orphelins vont mendier dans les rues, sans être accueillis, nourris, vêtus ni visités. Et cela est au-dessous de la religion chrétienne pure et sans tache qui fut établie parmi les chrétiens primitifs, au jour des apôtres, laquelle est notre religion pure et sans tache. Y, concernant l'antiquité de notre mère, la nouvelle Jérusalem céleste. Elle est la même que celle que les apôtres reconnaissaient dans les temps primitifs, il y a plus de 1600 ans, eux qui disaient, la Jérusalem d'en bas est dans l'esclavage avec ses enfants, mais la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle qui est la mère de nous tous, elle est la mère de tous les vrais croyants dans la lumière, la vie en Christ, qui marche dans la lumière de la Jérusalem céleste, leur mère. À ceux qui reçoivent Christ, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les enfants de la Jérusalem céleste sont aussi l'épouse, la femme de l'agneau, qui est libre, comme en Galates 4, 26. L'apôtre dit à l'Église du Christ, aux Hébreux, « Vous êtes venus à la Jérusalem céleste, et à la multitude innombrable des anges, et à l'Assemblée et Église des premiers-nés inscrits dans les cieux, et à Dieu, juge de tous, et aux esprits des justes parvenus à la perfection. » Hébreux 12, 22-23. Vous pouvez voir ici que les saints, au jour des apôtres, étaient venus à la Jérusalem céleste, leur mère, et à une multitude innombrable d'anges, et aux esprits des justes rendus parfaits, et à l'Assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, tandis qu'ils étaient encore sur la terre. Cette Jérusalem céleste, qui est libre, est maintenant la vraie mère de tous les vrais chrétiens. De même que tous, par nature, naissent naturellement, ainsi tous les vrais croyants en Christ naissent de nouveau, car celui qui croit est né de Dieu astérisque né spirituellement, et ceux-là sont les enfants de la Jérusalem céleste. Astérisque pour naître de Dieu, il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu, mais croire est bien plus profond qu'un assentiment mental, c'est croire que ses commandements doivent être obéis, et c'est l'obéissance qui, avec le temps, démontre la foi qui conduit à une repentance continuelle, à la mort de la nature pécheresse sur la croix intérieure du renoncement à soi, à la victoire par le fait de vaincre le monde, au fruit de l'Esprit, et à parvenir à la Jérusalem céleste, en compagnie d'une multitude innombrable d'anges des esprits. Et encore, Jean, dans l'Apocalypse, vit cette Jérusalem sainte et céleste, descendant du ciel, d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse parée pour son mari. Et il n'y entrera rien de souillé, ni rien de ce qui commet l'abomination ou le mensonge, mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Rêve 21, 2, 10, 27. Vous pouvez voir ici qu'il y a trois témoins ou témoignages qui confirment que la Jérusalem céleste, qui est en haute et libre, est la mère de nous tous, nous qui croyons en Christ et le recevons, à qui il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, et enfant de la lumière en croyant en sa lumière, et enfant du jour. Et ceux qui sont de cette naissance spirituelle connaissent la Jérusalem céleste, leur mère, et marchent dans la lumière de leur mère, la Jérusalem céleste, dont la lumière est le Seigneur Dieu et l'agneau. Or cette Jérusalem céleste, notre mère, descend du ciel, et engendre ses enfants nés libres. La puissance et la lumière viennent de Christ, qui est d'en haut, par sa puissance et sa lumière, ils deviennent enfants de Dieu, enfants de la lumière et de la Jérusalem céleste, où il n'y a pas de nuit, et ainsi ils sont nourris dans les bras et sur le sein de la Jérusalem céleste, leur mère qui les nourrit du lait de la parole, et ils croissent par lui. Car le Seigneur a dit, « La loi sortira de Sion, et la parole du Seigneur de Jérusalem, Michée 4:2, n'est-ce pas là le Sion céleste et la Jérusalem céleste ? Et la parole ne se retirera point de la bouche de la descendance et des enfants de la Jérusalem céleste. Oui, elle ne se retirera pas de la bouche de la descendance sa descendance, mais la parole de puissance, de patience et de sagesse demeurera dans la bouche de la descendance sa descendance, à savoir, toute la Jérusalem céleste, les enfants spirituels de notre mère, dans la Nouvelle Alliance et le Nouveau Testament, lesquels ne peuvent se joindre à ni reconnaître, aucune église mère au-dessous d'elle qui est céleste. Et ici est reconnue l'antiquité de notre mère, comme mère de tous les vrais chrétiens au jour des apôtres et maintenant. Et dans les enfants de notre mère, la Jérusalem céleste, se trouve l'amour des amours et la joie des joies, au-dessus de toutes les joies et de tous les amours d'en bas qui passeront, Yves. Maintenant, concernant l'Antiquité d'où nous vient notre foi, et qui en est l'auteur et le consommateur, l'apôtre dit à l'Église du Christ, aux Hébreux, « Courons avec persévérance la course qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. » Hébreux 12:1-2. Vous pouvez voir ici que les apôtres ne fabriquaient pas une foi pour les saints, mais leur disaient de regarder à Jésus, qui était l'auteur, ou le commencement, et le consommateur de leur foi sainte et précieuse, dont le mystère se conserve dans une conscience pure. Ainsi Christ révèle sa foi à son peuple. La foi vient par une révélation personnelle de Christ à chaque homme, et ainsi il croise dans la foi, et de foi en foi, jusqu'à Christ, l'auteur et le consommateur de celle-ci. L'apôtre n'a donc pas dit aux saints, à l'Église du Christ, « Regardez à nous pour que nous vous fassions une foi, et pour que nous en soyons, pour vous, l'auteur et le consommateur », mais il leur a dit, « Regardez à Jésus, l'auteur et le consommateur de leur foi. » Telle était la doctrine des apôtres aux chrétiens des temps primitifs, il y a plus de 1600 ans, et c'est la doctrine que nous avons reçue et que nous reconnaissons, nous qui ne regardons à personne au-dessous de Jésus-Christ comme étant l'auteur et le consommateur de notre foi sainte et précieuse. Par cette foi, tout le peuple de Dieu lui est agréable et a accès auprès de lui. Cette foi est notre victoire sur ce qui déplaît à Dieu, et c'est dans cette foi sainte que se trouve notre sainte unité. Par cette foi précieuse, tous les justes vivent. C'est l'unique foi sainte, pure et précieuse, qui purifie les cœurs du peuple de Dieu, dont Christ est l'auteur et le consommateur, et par elle, ils ont accès au Dieu saint, le servent et lui sont agréables. De notre foi sainte, catholique ou universelle, Christ est le commencement, ou l'auteur, et le consommateur. Dans cette foi sainte, l'Église du Christ s'édifiait et s'édifie encore les uns les autres, laquelle comme ci-dessus a pour auteur et consommateur Christ le Saint et non des hommes. V. Concernant l'antiquité de notre croyance. Christ, l'homme céleste et le second Adam, éclaire toute personne qui vient au monde par sa lumière spirituelle céleste qui est la vie en lui, la parole, et par lui, la parole, toutes choses ont été faites et créées. Et Christ a dit, « Croyez en la lumière, afin que vous deveniez enfants de la lumière. » Ainsi, en croyant en la lumière, la vie en Christ, nous sommes devenus enfants de la lumière, et nous avons été greffés en lui, la vie en qui nous avons la lumière de la vie. Et nous sommes ainsi passés de la mort en Adam à la vie en Christ, le second Adam, et comme l'apôtre a dit, « Celui qui croit est né de Dieu et vainque le monde. » Et ce sont là les vrais membres vivants, ou les pierres vivantes qui composent la maison spirituelle, l'Église du Christ, dont il est la tête sainte. Et comme l'apôtre a dit, il nous a été donné de croire, ainsi Christ nous a donné une lumière, qui est la vie en lui-même, et a dit, croyez en la lumière. Nous croyons donc en ce que Christ nous a donné et nous commande et nous enseigne de croire, à savoir la lumière, qui est la vie en lui, par laquelle nous pouvons le voir et le connaître, afin que nous devenions enfants de la lumière et du jour de Christ. Par cette lumière qui brille dans nos cœurs, elle nous donne la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Et tel est le trésor que nous avons dans des vases de terre. Et après avoir cru, nous sommes scellés du Saint-Esprit de Dieu, et nous pouvons apposer notre sceau, ayant en nous-mêmes le témoignage que Dieu est vrai dans toutes ses promesses, et dans les prophètes et les types et ombres dans la loi, concernant son Fils Jésus-Christ, en qui nous croyons, lui qui est notre rocher céleste et notre fondement sur lequel bâtir dans cette lumière divine céleste. Et tous les fondements que les hommes posent au-dessous de Christ, nous ne pouvons y bâtir, car nous croyons en la lumière, la vie en Christ, et nous avons été greffés en lui. Et Christ a dit, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Et ceux qui font l'œuvre de Dieu croient au Fils de Dieu qu'il a envoyé, et celui qui croit ne périra pas, mais il a la vie éternelle. Et Christ dit à Mande, celui qui croit, quand même il serait mort, vivra, et celui qui vit et croit ne mourra jamais. Voilà la vraie croyance vivante que Christ nous a enseignée, et il nous a donné sa lumière en laquelle croire, et cette croyance est distincte de toutes les fausses croyances que les hommes fabriquent et enseignent. Vie, concernant l'antiquité de notre voix. Jésus-Christ a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Christ est le chemin nouveau et vivant que Dieu a consacré pour nous, comme en Hébreux 10:20. Et ce chemin nouveau et vivant, Christ l'a lui-même établi il y a plus de 1600 ans, par lequel nous venons à Dieu. Et comme David a dit, « Quant à Dieu, sa voie est parfaite, et c'est Dieu qui me ceint de force et rend mon chemin parfait. » Psaume 18, 30-32. Encore, David a dit, « Comment un jeune homme rendra-t-il pur son chemin, en prenant garde selon ta parole ?» Psaume 119, 9. Ainsi la parole préserve des voies souillées. Comme Salomon a dit, le chemin, ou sentier, des justes est comme la lumière resplendissante qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. Mais le chemin des méchants est ténèbres, et ils ne savent à quoi ils trébuchent. Proverbe 4, 18-19. Et telle est la condition de ceux qui haïssent la lumière. La voie ou le sentier de l'homme juste et la voie des justes est droiture, et le Dieu très droit pèse le sentier des justes. Ésaïe 26, 7. Vous qui vous êtes égarés loin de la lumière, n'avez-vous pas entendu la parole derrière vous dire « Voici le chemin, marchez-y » Ésaïe 30, 21. Et vous tous qui avez entendu la parole de Christ, et vous êtes ainsi tournés vers lui, la lumière et le chemin, vous savez que l'Écriture s'accomplit. L'Ancien Testament était le bon vieux chemin pour les Juifs, mais Christ, dans le Nouveau Testament, est le chemin nouveau et vivant vers Dieu pour ceux qui croient et marchent en lui. Car Dieu a donné Christ pour être un gouverneur et un chef pour son peuple, et pour être son salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi Christ, qui est notre chef, est notre conseiller, notre salut et notre chemin vers Dieu, et il n'y a pas d'autre chemin vers le Père que par lui, qui est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Vie, concernant l'origine, Jean a dit « Au commencement était la parole ». Et toutes choses ont été faites par la parole, et sans la parole rien de ce qui a été fait n'a été fait. Jean 1:1-3. Et les apôtres étaient des prédicateurs de la parole. 1 Pé 1:25. Et l'apôtre a dit, « La parole est près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche, et c'est la parole de la foi que nous prêchons. » Rome 10:8. Et Jacques a dit, « De sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité. » Jacques 1:18. Ainsi le peuple de Dieu est engendré par la parole de vérité, étant né de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'incorruptible par la parole de Dieu, qui vit, demeure et subsiste à jamais, et ainsi, comme des nouveau-nés, ils désirent le lait pur de la parole, afin de croître par lui. 1 Pé 2:2. Et Jean a dit, « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous, et véritablement notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » 1 Jean 1:1-3. Cette parole n'est pas un commandement nouveau, car Jean a dit, « Je ne vous écris pas un commandement nouveau, mais un ancien commandement que vous avez eu dès le commencement. Le commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. » 1 Jean 2:7. Par la parole de Dieu, qui demeurait dans les saints, ils ont vaincu le malin. 1 Jean 2:14. Et Jean rendait témoignage de la parole de Dieu, rêve 1, 2, et dit que le nom de Christ s'appelait la parole de Dieu. La parole est appelée la parole de grâce, la parole de foi, la parole de sagesse, la parole de puissance et la parole de patience. C'est par cette parole que tout le peuple de Dieu est sanctifié et rendu pur, et par elle toutes choses leur sont sanctifiées, et par cette parole ils sont réconciliés avec Dieu, et cette parole était avant la confusion de Babel, avec ses nombreuses langues, que les prêtres et le monde appelaient l'original. Pilate mit une inscription en lettres hébraïques, grecques et latines sur Christ lorsqu'ils le crucifièrent. La bête et la prostituée, et la fausse église, avaient pouvoir sur les langues naturelles, comme en Rêve 13, 7, 17, 15. Mais la parole de Dieu était avant que leurs langues ne fussent. Et les hommes naturels, avec leurs arts et sciences naturelles et leurs langues, ne connaissent pas les choses de Dieu, car les hommes naturels, dans leurs écoles naturelles, peuvent apprendre leurs arts et sciences naturelles, leurs langues naturelles et leurs religions naturelles, et devenir ainsi des ministres naturels. Mais ceux qui entendent la voix de Christ, apprennent de lui et sont formés dans son école, deviennent des ministres capables de sa parole éternelle. Vie, concernant l'antiquité de notre vraie espérance, distincte de l'espérance de l'hypocrite qui périt. Le mystère caché de tout temps et de toute génération a été maintenant manifesté aux saints. C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire que nous annonçons, avertissant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin de présenter tout homme parfait en Jésus-Christ. Col 1, 27-28. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. 1 Jean 3-3. Et nous sommes sauvés par l'espérance, comme en Rome 8-24. Ainsi tous les saints peuvent savoir quelle est l'espérance de leur appel, car étant sauvés par l'espérance nous sommes sauvés par Christ qui doit habiter dans nos cœurs par la foi. Cette foi purifie nos cœurs car l'apôtre a dit, « Le Seigneur Jésus-Christ qui est notre espérance. » 1 Tim 1-1. et nous devons retenir fermement cette espérance mise devant nous, que nous avons comme une ancre de l'âme, sûre et ferme, elle pénètre au-delà du voile, là où le précurseur est entré pour nous, Jésus. Hébreux 6, 18-20. Et béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a engendrés de nouveau pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible et sans souillure, et qui ne se flétrit point, réservé dans les cieux pour les saints, lesquels sont gardés par la puissance de Dieu, par la foi pour le salut. 1 Pé 1, 3-5. Ici, vous pouvez voir que les saints qui sont dans cette espérance vraie et vivante ont un héritage incorruptible et sans souillure, eux qui sont gardés par la puissance de Dieu, par la foi pour le salut. Astérisque l'espérance des hypocrites est que Dieu excusera leur absence de loi et leurs péchés, leur permettant d'échapper à l'étang de feu, parce qu'ils croient en Jésus et ont été immergés ou aspergés d'eau, leur espérance est de pouvoir continuer leur vie de péché, puis, après la mort, d'être exemptés de la colère de Dieu sur un point de procédure. L'espérance des hypocrites n'est jamais dévoilée comme fausse avant la mort, quand il est trop tard pour se reprendre. L'espérance des hypocrites est une présomption de salut, sans expérience, sans possession, sans témoignage du salut astérisque X. Maintenant, concernant l'antiquité de notre évangile. L'apôtre dit aux Romains que l'évangile de Christ est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Car dans l'évangile, la justice de Dieu est révélée de foi en foi, de sorte que le juste vivra par sa foi. Romains 16, 18. Et encore, l'apôtre a dit, l'évangile a été prêché à toute créature sous le ciel. Colossiens 1, 23. Car Christ dit à ses disciples, « Allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. » Marc 16, 15. « Et Dieu jugera par Jésus-Christ les secrets des cœurs des hommes, selon mon évangile, dit l'apôtre. Lui en étant l'héritier, c'est selon la puissance de Dieu, qui est prêchée à toute créature sous le ciel. » Et l'évangile a été annoncé à Abraham, disant, « En ta descendance seront bénies toutes les nations. » Et cet évangile n'a-t-il pas été annoncé à Abraham 430 ans avant que la loi de Moïse fût donnée? Car la promesse a été faite à Abraham et à sa descendance. Il ne dit pas « et aux descendances » comme parlant de plusieurs, mais « et à ta descendance » comme parlant d'une seule, laquelle est Christ, comme en Galates 3, 8, 16, 17. Ainsi, dans cette descendance, Christ, toutes les nations et familles de la terre sont bénies. C'est pourquoi toutes les nations et familles de la terre doivent venir en Christ, la descendance qui écrase la tête du serpent, si elles veulent être bénies, et alors ceux qui sont de la descendance par la foi sont bénis avec Abraham le fidèle. Car les enfants de la promesse sont comptés pour la descendance, comme en Rome 9, 8. Et donc toutes les nations et familles de la terre doivent venir dans la descendance, si elles sont bénies, et ceux qui sont dans la descendance et sont baptisés en Christ ont revêtu Christ, et là en Christ, il n'y a ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni mâle ni femelle, ils sont tous un en Christ, Galates 3, 27, 28. Et ainsi ils sont tous fils de Dieu par la foi en Christ. Or cet évangile éternel et cette promesse ont été annoncés à Abraham 430 ans avant que la loi fût donnée à Moïse, disant « En ta descendance seront bénies toutes les nations et familles de la terre ». Et n'a-t-il pas été annoncé à Adam, lorsque Dieu dit « La descendance de la femme écrasera la tête du serpent ». Et lorsque Christ vint, il envoya ses disciples vers toutes les nations pour prêcher l'évangile à toute créature sous le ciel, comme ci-dessus. Jean dans l'Apocalypse, qui vit la nuit de l'apostasie et la chute de Babylone, vit l'ange voler au milieu du ciel, ayant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple, disant d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources des eaux. » Rêve 14, 6, 7. Voilà donc l'évangile éternel, prêché par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Or beaucoup peuvent avoir la lettre de l'Écriture et la forme des paroles des saints hommes, car les Juifs savaient les paroles d'Abraham et des prophètes, comme les chrétiens ont les paroles de Christ et des apôtres Matthieu, Marc, Luc et Jean, et ainsi ils peuvent prendre la lettre pour l'Évangile, mais la lettre de l'Écriture déclare ce qu'est l'Évangile. Les Écritures extérieures ou lettres peuvent s'user mais l'Évangile est éternel, et c'est la chose dont l'Écriture en témoignage, car si quelqu'un prêche un autre Évangile, dit l'apôtre, qu'il soit anathème, car l'Évangile astérisque que les apôtres prêchaient et enseignaient n'était pas de l'homme, et ils ne l'avaient pas reçu des hommes, mais par la révélation de Jésus-Christ. Galates 7, 12. Et c'est là l'évangile éternel de vie et de salut, en ta descendance seront bénies toutes les nations. Or des hommes peuvent être instruits dans la lettre extérieure de l'Écriture et la recevoir d'hommes dans l'état naturel, mais ce que l'Écriture, ou la lettre, déclare est révélé par Jésus-Christ, à savoir l'évangile éternel, la descendance, en qui toutes les nations sont bénies. Et c'est pour la défense de cet évangile que les apôtres furent établis en leur temps, et moi aussi, ainsi que beaucoup d'autres, en notre temps et en notre âge, contre les chrétiens savants en lettres, comme les apôtres l'étaient contre les Juifs savants en lettres. Et voyez quelle opposition les savants en lettres faisaient alors et font encore, eux qui professent l'Évangile en parole, mais ne viennent pas dans la descendance en qui tous sont bénis, et qui apportent la vie et l'immortalité à la lumière pour tous ceux qui sont en Christ, la descendance. Astérisque, c'est ce que Paul a été envoyé par Jésus pour prêcher, je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan vers Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés, la délivrance de l'esclavage du péché et un héritage parmi ceux qui sont purifiés par la foi en moi. Actes 26, 17, 18, X. Concernant l'antiquité des vrais ministres. Moïse, Aaron et les prophètes furent tous envoyés de Dieu dans l'Ancien Testament. Le Seigneur commanda à Moïse de prendre 12 bâtons et d'écrire sur les bâtons le nom de chaque homme, qui était chef de la maison de ses pères, ainsi un bâton serait le chef de la maison de ses pères, parmi ces 12 bâtons. Et le bâton d'Aaron était parmi leurs bâtons, et Moïse déposa leurs bâtons devant le Seigneur, dans le tabernacle du témoignage. Le lendemain matin, Moïse prit tous les bâtons, et le bâton d'Aaron, et voici le bâton d'Aaron pour la maison de Lévi avait bourgeonné, avait produit des boutons, des fleurs et des amandes mûres, mais le reste des bâtons des chefs d'Israël n'avait rien produit. Ainsi le Seigneur choisit la maison de Lévi pour le servir dans le tabernacle extérieur. Nom 17. Et ainsi le Seigneur choisit, dans son nouveau testament et sa nouvelle alliance, ce dont les bâtons spirituels bourgeonnent dans le tabernacle intérieur, pour le servir dans le tabernacle intérieur, afin d'être un sacerdoce saint et royal, offrant à Dieu des sacrifices spirituels par Christ. 1 Pé 2, 5-9. Jean le plus grand prophète né d'une femme était un homme envoyé de Dieu. Jean 1, 6, Matt 11, 11. Christ dit que le Père vivant l'a envoyé comme en Jean 6, 57. Et Christ dit, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, à savoir ses disciples. » Et les apôtres croyaient que Dieu avait envoyé Christ, comme en Jean 17, 18, 8. Et Christ appela ses 12 disciples, les envoya prêcher et leur donna puissance, et il leur dit, « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, comme en Matt 10, 1, 42. » Vous pouvez voir là comment Christ encourage ses ministres gratuits, et pareillement en Marc 6, 1, 6. Et Christ dit à ses disciples que la moisson était grande et les ouvriers peu nombreux, priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ainsi vous pouvez voir que Christ leur donne ici puissance et qu'ils devaient prier le Seigneur de la moisson pour des ouvriers, et non les grands prêtres et les rabbins et les autorités, afin que ceux-ci envoient leurs lettres à des docteurs instruits et leur donnent pouvoir. Et vous pouvez lire en Matt 23 comment Christ déclare contre les faux docteurs, et comment les Juifs persécuteraient, crucifieraient et fouetteraient ce que Christ envoie dans leur synagogue et de ville en ville. Ainsi ces faux docteurs ont toujours persécuté les vrais, Matt 23, 30, 39, 1. Et vous pouvez voir en Matt 22, 1, 16 comment Christ envoie ses disciples invités au mariage. Et lorsque Christ envoya ses 70 disciples, il dit, « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups, sans bourse ni sac, et vous pouvez voir comment il les exhortait quant à la manière dont ils devaient prêcher et se conduire. » Luc 10, 1, 12. Et l'apôtre dit aux Éphésiens, parmi lesquels il avait travaillé l'espace de 3 ans et leur avait prêché, qu'il n'avait cessé d'avertir chacun d'eux, nuit et jour, avec larmes, et il dit, « Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne, car vous savez que ses mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. » Je vous ai montré en toute chose que, par un tel travail, il faut soutenir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus qui a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Actes 20, 31, 35. Ici, vous pouvez voir un exemple de vrai ministre de Christ, et aussi en 1 Cor 9, 1, 20, comment l'apôtre s'efforçait d'annoncer l'Évangile sans frais et de le rendre gratuit, et comment il reprend ceux qui ne travaillaient pas, afin qu'ils travaillent et suivent l'exemple des apôtres, comme en 2 3, 6, 12, qui ne voulaient pas être à charge pour eux. Et l'apôtre a dit que Christ est monté au ciel et a fait des dons aux hommes pour l'œuvre du ministère. Les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes, les autres pasteurs, les autres docteurs pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous nous rencontrions tous dans l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait à la mesure de la stature de la plénitude de Christ. Et ainsi à chacun de nous, la grâce est donnée selon la mesure de la stature de la plénitude de Christ. F4 1, 16. Ici, vous pouvez voir qu'ils avaient les dons de Christ qui faisaient de des ministres, et non des écoles, des collèges, ni des autorités. Et Pierre dit, que chacun, selon le don qu'il a reçu, le mette au service des autres, comme de bons dispensateurs de la grâce multiforme de Dieu, et les anciens devaient paître le troupeau de Dieu, non par contrainte mais volontairement, non pour un gain honteux mais de bon cœur, non comme dominant sur l'héritage de Dieu, mais en étant des modèles pour le troupeau. 1 P 4 10 5 2 3 En Rome 12, 6, 8, vous pouvez voir comment l'apôtre les exhorte à développer leurs dons, dans l'enseignement, la prophétie et l'exhortation, et ces dons, ils les avaient reçus de Christ, Astérisque aucun des ministres d'Ojudieu n'a été établi par Christ, aucun n'a été formé par Christ pour devenir parfait comme le Maître. Pourtant Christ a dit que l'élève ne peut être plus grand que le Maître et qu'il doit donc s'être d'abord rendu parfait. Ceux qui enseignent et prêchent sans avoir été instruits, purifiés, perfectionnés, restaurés à l'image de Dieu et autorisés par Christ sont des ministres de Satan, proférant des divinations issues de leur esprit charnel, qui est en inimitié avec Dieu et dans la nature de la mort. Et en intime 3, vous pouvez voir comment les évêques, diacres et surveillants ne devaient pas être portés au vin, ni violents, ni crêleurs, ni cupides, ni avides d'un gain honteux, mais ils devaient être capables de bien gouverner leur propre maison, tenant leurs enfants dans la soumission. Car s'ils ne savent pas bien gouverner leur propre maison, comment prendraient-ils soin de l'Église de Dieu? De même, leurs femmes devaient être honnêtes, non médisantes, mais sobres et fidèles en toutes choses. Ainsi que ces évêques anciens, diacres et ministres soient d'abord éprouvés, et s'ils sont trouvés irréprochables, alors qu'ils exercent le ministère, comme en Intime 3:1-13. Il semble donc qu'ils ne devaient pas exercer le ministère s'ils n'étaient pas irréprochables en ces choses. Et de même, vous pouvez voir les qualifications des hommes âgés et des femmes qui devaient être enseignantes des bonnes choses et enseignantes des jeunes femmes, comme en Tite 2:1-6. Et vous pouvez voir partout dans les Écritures comment Christ et les apôtres ont témoigné contre les prophètes, bergers et docteurs cupides, qui prêchaient pour salaire et pour un gain honteux, et comment les vrais prophètes, Christ et les apôtres parlaient gratuitement et souffraient à cause des mercenaires et des cupides, qui enseignaient pour un gain honteux. Christ dit à ses disciples et aux croyants d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de puissance d'en haut, ils recevraient alors le Saint-Esprit et seraient témoins de Christ, à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, comme en Actes 1:4-9. Vous pouvez voir ici l'ordination primitive des ministres de Christ. Ils avaient leur don de Christ, étaient revêtus de puissance d'en haut, recevaient le Saint-Esprit, et chacun devait exercer le ministère selon le don qu'il avait reçu de Christ. Ainsi ils n'étaient pas revêtus de puissance d'en bas, ni par les grands prêtres, ni par les rois, ni par les empereurs, ni par des hommes, ni par des écoles ou des collèges. Mais ils étaient revêtus de puissance d'en haut, et leurs dons, ils les avaient reçus de Christ, montés en haut au-dessus de toute principauté, puissance, trônes et dominations. Ainsi voici l'Antiquité et la première ordination des ministres et docteurs de Christ, selon l'Écriture que nous reconnaissons. Dieu a répandu son esprit sur toute chair, comme en Joël 2, Acte 2, par lequel fils, filles, servantes et serviteurs prophétiseraient et auraient leur vision spirituelle, et les vieillards leurs songes spirituels. Et cela est maintenant attesté au jour de la Nouvelle Alliance, au jour de l'Évangile de Christ. Mais ceux qui se rebellent contre l'Esprit de Dieu, le contristent, l'attristent et s'en moquent disent que la prophétie, la révélation et les visions ont cessé. Or l'apôtre a dit que nul ne connaît les choses de Dieu, sinon par l'Esprit de Dieu, et que l'Esprit de Dieu les révèle, et l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, elles lui paraissent folie, et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. 1 Cor 2:11-14, XI. Concernant l'antiquité de notre guide et de ce qui nous donne la connaissance. Le Seigneur dit, parlant de Christ, en Isaïe 55:3-4, « Je ferai une alliance éternelle, et voici je l'ai donné comme témoin, guide et chef pour les peuples, il paîtra son troupeau comme un berger, il rassemblera les agneaux dans son bras, les portera sur son sein, et conduira doucement celles qui allaitent. » Isaïe 40:11. Et je ferai marcher les aveugles dans un chemin qu'ils ne connaissent pas, je les conduirai dans des sentiers qu'ils n'ont pas connus. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en ligne droite. Je ferai pour eux ces choses et je ne les abandonnerai pas. Isaïe 42:16. Christ a dit qu'il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il appelle ses brebis par leur nom, les conduit, marche devant elles, et ses brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jean 10:11-3-4. Christ a dit qu'il enverrait à ses croyants le Consolateur, l'Esprit de vérité qui procède du Père, et qui les guiderait et les conduirait dans toute la vérité. Jean 14:16-19, 15:26, 16:13. Ainsi cet Esprit de vérité était et est le guide et conducteur dans toute la vérité des ministres, docteurs, disciples et croyants vrais en Christ. Car l'apôtre a dit qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est venue par la volonté de l'homme, et qu'elle n'est pas d'interprétation particulière, mais des hommes saints de Dieu ont prononcé l'Écriture, poussés par le Saint-Esprit. 2 Pé 1:21. Ainsi c'est le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit de vérité, qui conduit les croyants de Christ dans toute la vérité, et dans toute la vérité des Écritures. Et Jean a dit, « Celui qui est assis sur le trône demeurera au milieu d'eux, et ils n'auront plus faim ni soif. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources d'eau vive, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, Ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Rêve 7:15-17. Ce qui donnait à l'Église du Christ la connaissance au jour des apôtres nous donne, à nous, l'Église du Christ, la connaissance en nos jours. L'apôtre a dit, « Dieu, qui a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs remarqués, dans nos cœurs pour faire resplendir la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ, et nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu et non de nous. » Si nous avons cette lumière venant de Dieu et de Christ, et elle brille dans nos cœurs par l'ordre de Dieu, pour nous donner la connaissance de sa gloire sur la face de Christ, son Fils, et Dieu reçoit la gloire et l'honneur de cette lumière, qui nous donne la connaissance de Christ, notre Sauveur, qui est le trésor de la sagesse et de la connaissance. Cette lumière de Dieu et de Christ nous donne la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ, comme ci-dessus, et sans cette lumière, nous n'avons pas la connaissance de la gloire de Dieu sur la face. Maintenant, concernant l'antiquité de notre Maître dans la Nouvelle Alliance. Christ a dit, n'est-il pas écrit dans les prophètes, « Vous serez tous instruits de Dieu, quiconque a entendu le Père et a appris de lui vient à moi, et nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Jean 6:44-45. Tous tes enfants seront instruits par l'Éternel, et grande sera la paix de tes enfants, ils seront affermis dans la justice, Ésaïe 54:13. Et le Seigneur dit en Jer 31:31-34, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda, non selon l'ancienne alliance que j'ai faite avec leur père, mais voici l'alliance, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et ils n'enseigneront plus chacun son prochain, ni chacun son frère, disant, « Connaissez le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. » Ainsi l'ancienne alliance et ses prêtres, dont les lèvres devaient conserver la connaissance du peuple, cessent, et il n'y en a plus besoin dans la nouvelle alliance, car tous connaîtront Dieu, par la loi qu'il met dans leurs esprits et qu'il écrit dans leur cœur. Hébreux 7:8. Et cette nouvelle alliance est une alliance éternelle, et elle dure à jamais dans tous les âges. Et tout le peuple de Dieu connaît Dieu et Christ par la loi qu'il met dans leurs esprits et qu'il écrit dans leur cœur, de sorte qu'ils n'ont pas besoin de donner aux prêtres dîmes et entretiens, afin d'enseigner au peuple à connaître le Seigneur. L'apôtre a dit à l'Église du Christ, aux Thessaloniciens 1:4-9, « Quant à l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en écrive, car vous-même, vous êtes instruits de Dieu à vous aimer les uns les autres. » Et Jean, dans son épître générale à l'Église du Christ, les renvoie à leur maître, l'onction au-dedans d'eux, et il dit, « Que donc demeure en vous ce que vous avez entendu dès le commencement ? Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous aussi vous demeurez dans le Fils et dans le Père. Et voici la promesse qu'il nous a faite, la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous séduisent, mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous enseigne, mais comme la même onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est vraie et n'est point un mensonge, vous demeurez en lui, selon qu'elle vous l'a enseigné. » 1 Jean 2:24-27. Jean a écrit cela à l'Église du Christ qui avait reçu la vérité et y était affermie. Or cette onction en eux, qu'ils ont reçue de Dieu, était alors le maître de son peuple, et elle est le maître du peuple de Dieu, l'Église du Christ aujourd'hui. Et les prêtres ou enseignants, qui voudraient les détourner de l'enseignement intérieur de cette onction les détourneraient de demeurer dans le Père et dans le Fils, et ainsi de la promesse de la vie éternelle, comme en 1 Jean 2:21-24-27. Et l'apôtre a dit à Tite, « La grâce de Dieu, qui apporte le salut, est apparue à tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le présent siècle avec sobriété, justice et piété. » Tite 2:11-12. Ici, vous pouvez voir quel était le maître de l'Église du Christ, la loi dans le cœur, l'onction au-dedans, la grâce de Dieu dans le cœur, qui apporte le salut. Elle est apparue à tous les hommes pour les instruire et leur apporter le salut, s'ils ne marchent pas avec mépris contre l'esprit de grâce et ne le changent pas en débauche. Et le Seigneur dit à Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Cor 12:9-10. Et voici l'antiquité de notre Maître, établie il y a plus de 1600 ans, par lequel nous connaissons Dieu, demeurons dans le Père et dans le Fils, et avons la vie éternelle, cette grâce suffit pour affermir nos cœurs et apporter notre salut. De sorte que nous n'avons pas besoin de donner aux prêtres et aux mercenaires dîmes et argent pour nous instruire, car nous sommes venus aux eaux de la vie, sans argent et sans prix, qui rassasient nos âmes assoiffées. Jean 7:7, Ésaïe 55:1-2. Ainsi nous louons Dieu et chantons Alléluia par Jésus-Christ. Concernant l'antiquité de notre médiateur, l'apôtre a dit, « La loi, qui a été ajoutée à cause des transgressions, a servi jusqu'à ce que vint la postérité à laquelle la promesse avait été faite, et elle a été promulguée par des anges par la main d'un médiateur. » Galates 3:19. Et l'apôtre a dit, « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, et Christ s'est donné lui-même en rançon pour tous, afin que cela fût attesté en son temps. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus. » 1 Tim 2, 4-6. Or voici l'unique médiateur que nous reconnaissons entre Dieu et l'homme, Dieu ayant répandu son esprit sur toute chair, hommes et femmes, afin que par l'esprit de Dieu, ils puissent connaître Christ, l'unique médiateur entre eux et Dieu. Ainsi vous pouvez voir ici que l'apôtre n'a pas établi plusieurs médiateurs entre Dieu et l'homme, mais un seul médiateur, Christ Jésus le Fils de Dieu. Xiv. Concernant l'antiquité des surveillants. L'apôtre dit aux anciens, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi surveillant, Actes 20-28. Ici, vous pouvez voir que les surveillants de l'Église du Christ n'étaient pas établis par des hommes, mais le Saint-Esprit les établissait surveillants. Ils avaient donc l'œil spirituel pour veiller les uns sur les autres. Et Christ, lorsqu'il envoya ses ministres, leur dit qu'ils seraient traduits devant des magistrats et des autorités. Et il leur dit, « Ne vous inquiétez pas de la manière dont vous répondrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire, comme en Luc 12, 11-12. » Ainsi ils devaient attendre dans le Saint-Esprit, qui les conduisait dans toute la vérité, et ne pas se soucier ni suivre leurs propres pensées, mais se confier au Saint-Esprit, leur guide et consolateur. XV. Concernant l'antiquité de la prière de l'Église du Christ, et en quoi elle consiste. L'apôtre a dit, « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Romains 8, 26-27. Et encore l'apôtre a dit, « Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence, je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » 1 Cor 14-15. Et encore l'apôtre Jude a dit, « Vous bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priant dans le Saint-Esprit. » Jude 20. Ici vous pouvez voir que c'est l'Esprit que Dieu répand sur toute chair, et le Saint-Esprit, dans lequel l'Église du Christ et tout le peuple doivent chanter et prier, servir et adorer Dieu, et ne pas attrister l'Esprit de Dieu, ni l'irriter, ni l'éteindre, ni se rebeller contre lui. Après que Dieu eut fait l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance, les eut bénis et les eut placés dans le paradis, il leur donna un commandement, « Mangez de tout arbre, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où ils en mangeraient, ils mourraient. » Mais le serpent, l'esprit menteur, leur dit qu'ils ne mourraient pas s'ils en mangeaient. Ainsi ils suivirent l'enseignement du serpent et désobéirent à celui de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu les chassa du paradis sur la terre. Ici, vous pouvez voir avec quelle rapidité s'éleva un faux maître menteur, qui sema sa mauvaise semence. Et Adam et Ève, pour avoir désobéi à Dieu, furent chassés du paradis et perdirent l'image de Dieu et leur état bienheureux. Et l'ancien monde, qui attrista le Seigneur et son esprit, corrompit la terre et la remplit de violence, le Seigneur dit que son esprit ne contendrait pas toujours avec l'homme. Ainsi Dieu fit venir le déluge sur l'ancien monde impie et les détruisit, mais il sauva Noé et sa famille, un prédicateur de justice. Et ensuite, dans le nouveau monde, Nimrod se leva et bâtit Babel, mais le Seigneur le confondit, lui et ses partisans. Puis Sodome et Gomorre se livrèrent à l'impiété et à des actes illégaux, et Dieu les réduisit en cendres. Et après que le Seigneur, par sa grande puissance, eût fait sortir d'Égypte les enfants d'Israël, que le serpent ne sema-t-il pas rapidement sa semence impie en eux, et Dieu leur donna sa loi et son bon esprit pour les instruire, comme en Énoch 20. Mais ils se rebellèrent contre son esprit et tournèrent le dos à sa bonne loi. Et pour leur désobéissance, combien de fois le Seigneur permit-il qu'ils soient emmenés en captivité? Et enfin les 10 tribus pour leur désobéissance furent emmenés par Salmonasé, roi d'Assyrie, hors de Samarie et du pays de Canaan, en captivité, pour avoir désobéi au Seigneur et s'être rebellé contre lui. Et ensuite, les 2 tribus furent emmenées par le roi de Babylone loin de Jérusalem et du pays de Canaan, qui était appelé la gloire de tous les pays. Quand le Seigneur Jésus-Christ vint, les Juifs se bouchèrent les oreilles et fermèrent les yeux à lui et à sa doctrine, et crièrent, « Qu'on l'ôte, crucifie-le, crucifie-le. » Christ leur dit que leur ville serait environnée d'armées, et leur temple renversé, et qu'ils seraient dispersés parmi toutes les nations. Ce qui arriva par Titus le Romain, qui détruisit Jérusalem et le Temple, et dispersa les Juifs, de sorte qu'ils n'ont jamais pu reconstruire Jérusalem ni le Temple depuis. Et ainsi ils furent chassés de leur propre pays pour avoir désobéi à Dieu et abandonné sa loi et son esprit. Comme Adam et Ève furent chassés du paradis pour avoir désobéi à Dieu, suivi l'enseignement du serpent et abandonné celui de Dieu. Après que Christ eut envoyé ses disciples prêcher l'évangile de la vie et du salut à toutes les nations et à toute créature sous le ciel, le diable sema sa semence impie et livrait dans le cœur des gens pendant qu'ils dormaient, et qu'ils devenaient négligents à l'égard de la vérité de Dieu. Et le diable suscita de nombreux antéchrists, faux prophètes, faux docteurs, faux apôtres, séducteurs et trompeurs, qui prirent la forme de la piété et l'apparence extérieure du christianisme, et en entraînèrent beaucoup après eux. Et ainsi ils établirent une fausse église, la prostituée Babylone, la mystérieuse mère des prostituées, qui montait la bête dans la puissance du dragon, et fit les peuples, les nations et les langues semblables aux eaux, et dans cette prostituée et cette fausse église se trouve le sang des prophètes et des martyrs de Jésus. Car Jean dit, elle était ivre du sang des prophètes et des martyrs de Jésus, c'est-à-dire du sang des enfants de la Jérusalem céleste. Car la Jérusalem céleste, l'épouse, la femme de l'agneau, est la mère de tous les vrais chrétiens qui croient en la lumière, qui sont enfants de la lumière et reçoivent Christ, qui leur donne le pouvoir de devenir fils de Dieu. Ainsi cette prostituée, ou fausse église, s'est détournée de la vraie mère, la Jérusalem céleste, et de Christ, le véritable époux, et elle est devenue la mère des prostituées, la prostituée, qui a bu le sang des martyrs et s'est assise sur la bête persécutrice dans la puissance du dragon. Mais le jugement de la grande prostituée est venu, et la bête, le dragon et le faux prophète Jean les vit précipités dans l'étang de feu, et l'évangile éternel de nouveau prêché à toutes les nations, langues et peuples pour les affermir. Et tous ceux qui reçoivent l'évangile éternel, la semence en laquelle toutes les nations sont bénies, sont les enfants de la Jérusalem céleste et les enfants de la semence, et sont enfants et héritiers du royaume éternel de Dieu et de Christ, qui subsistent en puissance et en justice, en joie et en paix dans le ciel. Et cette semence sera comme le sable de la mer, la poussière de la terre et les étoiles du ciel, qu'on ne peut compter. Christ a vu sa semence, qui sont les enfants de son royaume, que celui qui a des oreilles entende. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement, Hébreux 13:8, qui exerce sa charge prophétique, comme il est un prophète céleste, qui ouvre les yeux des gens pour voir les choses spirituelles et célestes, et Christ leur sauveur, qui les rachète et les acquiert au prix de sa propre vie, de son sang. Ainsi Christ le prophète doit être écouté en toutes choses par ses enfants, lui qui éclaire tout homme venant au monde, afin que, dans la lumière, ils puissent le voir et l'entendre. Il leur ouvre le livre de la conscience et le livre de vie, afin qu'ils puissent y lire et voir leurs noms y être écrits, livre que nul homme ne peut ouvrir, sinon Christ l'agneau. Christ exerce sa charge comme évêque céleste, qui relève ses enfants de la mort en Adam, et les fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, et il est un évêque pour veiller sur eux, afin qu'ils ne sortent pas des lieux célestes en lui. Christ exerce sa charge comme berger céleste parmi ses brebis spirituelles, les nourrit de son pain venu du ciel et de l'eau de la vie, dans son pâturage céleste, et ses brebis connaissent sa voix et le suivent. Christ exerce sa charge, en tant qu'il est roi des rois et seigneur des seigneurs, lui qui règne dans le cœur de son peuple par la foi, afin que tous soient un, dit Christ, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Et la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Jean 17, 21-23. Ainsi Christ, le roi et seigneur céleste, règne, ordonne et gouverne dans le cœur et l'âme de ses enfants, il est l'évêque et le souverain berger de l'âme pour veiller sur ses brebis et les nourrir. Concernant notre baptême, l'apôtre a dit, il y a un seul baptême, Éphèse 4:5, et nous avons tous été baptisés dans un seul corps par un seul esprit, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, voilà l'unique baptême spirituel, établi il y a plus de 1600 ans. Et vous pouvez voir davantage la distinction entre le baptême de Jean et celui de Christ dans mon livre intitulé « Une distinction entre les deux baptêmes et les deux soupers de Christ ». Comment le baptême de Jean, avec l'élément de l'eau, a diminué, et le baptême de Christ avec le feu et le Saint-Esprit augmente, lui qui purge entièrement son air et brûle la paille dans un feu inextinguible, et comment Christ rassemble le blé dans son grenier, tel est notre baptême et notre baptiseur. George Fox Edmonton, le 2 mois 1688 post-scriptum. L'Antiquité de notre croix. L'apôtre a dit à l'Église du Christ que « la prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu ». 1 Cor 1:18. Et ceux qui étaient et sont ennemis de la croix de Christ étaient et sont ennemis de la puissance de Dieu. Ainsi toutes vos croix de pierre, de bois, d'airain, d'argent ou d'or, que vous avez inventées et dressées depuis les jours des apôtres, ne sont pas la croix de Christ, la puissance de Dieu, mais les œuvres de vos propres mains. Et l'apôtre a dit, « À Dieu ne plaise que je me glorifie, sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. » Galates 6:14. Ainsi c'était de la puissance de Dieu, la croix de Christ, que l'apôtre se glorifiait, par elle le monde était crucifié pour lui, et lui pour le monde, et telle est notre croix dont nous nous glorifions, établie il y a plus de 1600 ans. Et ce n'était pas une croix faite de bois, de pierre, de fer, d'airain, d'argent ou d'or, dont l'apôtre ou l'Église du Christ se glorifiait, ni de telles croix extérieures, temporelles et mondaines, comme les hommes en font et en inventent, ne sont capables de crucifier les gens au monde. Ce qui crucifie les gens au monde, et le monde à eux, c'est la croix de Christ, la puissance de Dieu devant laquelle tous doivent se courber, et en laquelle leur foi doit demeurer, et ils sont insensés et dans les ténèbres. Ceux qui pensent qu'une croix de pierre, de bois, de fer, d'argent ou d'or, faite par l'homme, est la croix de Christ, la puissance de Dieu, et se prosterner devant de telles choses mondaines et temporelles et les appeler la croix de Christ est contraire aux Écritures que les apôtres enseignaient à l'Église du Christ. Mais eux ne pouvaient pas, et nous ne pouvons pas, nous prosterner devant quelque croix extérieure, temporelle et mondaine, que les hommes ont faite de leurs mains, ni nous incliner devant elles. Car ceux qui adorent les œuvres de leurs propres mains sont ennemis de la croix de Christ, la puissance de Dieu. George Fox astérisque la croix de Christ est la croix intérieure du renoncement à soi-même et de l'obéissance. Une salutation spirituelle ou céleste à tous ceux qui ont le cœur tendre, dans la chrétienté, qui cherchent le royaume de Dieu et sa justice, que je désire et les prie de lire, dans l'amour de Dieu, dans lequel elles leur sont envoyées, de la part de celui qui désire ici le bien de tout le genre humain, et leur bonheur éternel dans l'au-delà. Par George Fox à tous ceux qui ont le cœur tendre dans la chrétienté, dont les visages sont tournés vers la Jérusalem céleste, et dont les pensées sont tournées et attirées par l'Esprit de Dieu vers Christ, qui est la voie nouvelle et vivante vers Dieu, et l'unique médiateur entre Dieu et l'homme, lui qui éclaire tout homme venant au monde de sa lumière divine et céleste, qui est la vie en Christ, la parole par qui toutes choses ont été faites et créées. Christ a dit, « Croyez en la lumière, afin que vous deveniez enfants de lumière. » Ainsi Christ, qui n'est pas du monde mais d'en haut, nous a donné sa lumière pour y croire et y marcher, afin que nous ayons la lumière de la vie. Et celui qui croit est enfant de lumière, né de Dieu, il triomphe du monde et passe de la mort venue par Adam, et est greffé en Christ la vie, le second Adam, et ainsi ils sont des pierres vivantes ou ses membres, lui la tête vivante. Et les enfants de cette lumière, qui marchent dans cette lumière, ont communion avec le Fils et le Père, et les uns avec les autres, et toute la chrétienté qui ne marche pas dans la lumière que Christ vous a donnée n'est pas dans cette communion divine et céleste. Mais nous rendons témoignage que cette prophétie s'est accomplie et s'accomplit au sujet de Christ. Dieu a dit, « Je le donnerai pour alliance au peuple, et pour lumière aux nations, et il sera mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Ésaïe 49, 6-8. De sorte que ceux qui viennent à connaître leur salut et à entrer dans l'alliance avec Dieu doivent venir à la lumière de Christ, qui donne la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ Jésus. Cette lumière brille dans leur cœur, trésor céleste dans des vases de terre. Et si tout ce qui est appelé chrétienté avait cru en la lumière, la vie en Christ que Christ donne et enseigne à croire en ce qu'il leur donne, alors ils auraient tous été enfants de la lumière et du jour de Christ, dans l'unité et la communion de la lumière. Et si toute la chrétienté avait observé la doctrine de l'apôtre à l'Église du Christ, lui qui les exhortait à regarder à Jésus, l'auteur et le consommateur de leur foi, alors ils n'auraient pas élaboré tant de confessions de foi, au sujet desquelles ils se sont persécutés les uns les autres. Car nul homme ici-bas ne peut faire une foi divine catholique, car je dis que Christ Jésus est le commencement et l'achèvement de notre foi sainte, divine, précieuse, catholique ou universelle, qu'il, le Saint, révèle de foi en foi. Et le mystère de cette sainte foi est gardé dans une conscience pure, et non dans une conscience impure, et elle purifie le cœur et donne la victoire sur ce qui déplaît à Dieu et sépare de Dieu, c'est dans cette sainte foi que nous tenons du Saint, que nous plaisons au Dieu Saint et avons accès auprès de Lui. Dans cette foi sainte et divine est notre unité, ainsi Christ a l'honneur, Lui qui est l'auteur de notre foi et celui qui l'achève, et qui, de même, nous donne sa lumière, la vie en Lui-même. Et heureuse aurait été toute la chrétienté si elle s'en était tenue à la doctrine de l'apôtre, à l'Église du Christ, qui disait « La grâce de Dieu, qui apporte le salut, est apparue à tous les hommes, et nous enseigne, c'est-à-dire aux chrétiens, d'alors et d'aujourd'hui à vivre avec piété, justice et sobriété, et à renoncer à l'injustice et aux convoitises mondaines. » Or je dis, heureuse aurait été toute la chrétienté depuis les jours des apôtres si elle s'en était tenue à cette grâce de Dieu comme à son maître, qui aurait apporté son salut et l'aurait conduite dans la faveur de Dieu. S'il l'avait fait, il n'y aurait pas eu tant d'oreilles qui démangent, ni tant d'écoles et de collèges établis pour fabriquer des docteurs, ce qui plonge la chrétienté dans la confusion, les uns contre les autres. Certains diront, cette grâce est-elle suffisante ? Dieu dit à Paul qu'elle était suffisante lorsqu'il était dans ses épreuves et ses tentations, et des milliers peuvent témoigner que la grâce de Dieu est suffisante, et qu'elle leur enseigne ce qu'il faut renoncer et comment vivre, et qu'elle apporte leur salut. Car comme la loi est venue par Moïse dans l'Ancien Testament, et que les Juifs devaient vivre sous elle, ainsi la grâce et la vérité sont venues par Jésus dans le Nouveau Testament, et cette grâce et cette vérité sont dans le cœur du peuple de Dieu, Ils sont sous l'enseignement de la grâce et dans l'alliance de la grâce. Car Christ, par la grâce de Dieu, a goûté la mort pour tout homme, afin que tous puissent sortir de la mort en Adam pour venir à la lumière et à la vie en lui, par sa lumière, sa grâce, sa vérité et la foi dans leur cœur, dont il est l'auteur. Car il y a une prophétie en Joël 2, 28-29, que Dieu répandrait son esprit sur toute chair, dont les apôtres montrent l'accomplissement aux Juifs en Actes 2, 16-18. Et maintenant, pourquoi donc tous les fils, filles, serviteurs, servantes et vieillards dans la chrétienté n'ont-ils pas leur prophétie, vision et songe céleste? N'est-ce pas parce qu'ils se sont égarés loin de l'Esprit de Dieu, et qu'ils l'irritent, l'éteignent et l'attristent, lui qui l'a répandu sur eux, et qu'ils sont devenus comme les Juifs à qui Dieu donna son Esprit, mais qui se rebellèrent contre lui? N'est-ce pas pour cela que toute la chrétienté est en désordre, les uns contre les autres, hors de la communion? Ainsi, le moyen par lequel toute la chrétienté, et tous les peuples, doivent venir à l'unité et à la communion dans l'Esprit, c'est qu'ils doivent tous venir dans l'Esprit que Dieu a répandu sur eux. Par cet Esprit, ils doivent être circoncis, et le corps du péché et de la mort leur être retranché, dans lequel ils sont entrés par la transgression en Adam, qui n'en avait aucun avant sa chute, et ils doivent être baptisés de l'Esprit, pour plonger le péché par cet Esprit. Je dis, tous doivent être baptisés dans un seul corps, et ainsi tous abreuvés d'un seul Esprit. Cet Esprit de Dieu amène tous à la communion et à l'unité, car l'Esprit de Dieu est le lien de la paix, et en lui est l'utilité. Et il ouvre les prophéties, visions et songes célestes au peuple de Dieu aujourd'hui, comme il le faisait au jour des apôtres. Jésus-Christ a établi un culte il y a plus de 1600 ans, en esprit et en vérité, lorsqu'il abolit le culte des Juifs à Jérusalem et celui des Samaritains au puits de Jacob, et qu'il dit « L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. C'est pourquoi tous doivent venir à l'Esprit de Dieu et à sa vérité dans leur cœur. Et par cette vérité et cet esprit en leur cœur, ils doivent connaître le Dieu de vérité, un esprit infini, et dans sa vérité et dans son esprit, adorer et servir le Dieu de vérité. Et si toute la chrétienté s'en était tenue à la vérité et à l'esprit dans ses cœurs, elle se serait tenue au culte que Christ, le Seigneur venu du ciel, a établi, car nul ne peut en établir un meilleur que lui, et alors elle n'aurait pas établi tant de cultes et ne se serait pas persécutée à cause d'eux. Mais tous les peuples doivent retourner à l'Esprit de Dieu et à la vérité dans leur cœur s'ils veulent servir et adorer Dieu leur Créateur, car Dieu est venu enseigner lui-même son peuple par son Fils. Car comme l'apôtre l'a dit, Dieu, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, lui qui écrase la tête du serpent, qui a été la tête de tous les faux parleurs et de toutes les fausses religions, églises, voies et cultes. Mais c'est Dieu qui parle maintenant à son peuple par son Fils, lui qui parlait à Adam dans le paradis. Mais quand Adam abandonna l'enseignement de Dieu et suivit celui du serpent, il perdit son bonheur, ainsi en a-t-il été des Juifs et des chrétiens. C'est pourquoi tous doivent revenir, par l'Esprit, la lumière, la grâce et la vérité de Jésus, à Christ Jésus, le grand prophète, berger, évêque, guide et conseiller, afin qu'ils entendent Dieu leur parler par son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, quand bien même il ferait profession de toutes les Écritures. Et nul ne peut recevoir le Fils, sinon par la lumière, la grâce et la vérité qui viennent de lui dans leur cœur. Pourquoi toute la chrétienté n'est-elle pas fille et fille de Dieu, elle qui fait profession de Christ? N'est-ce pas parce qu'ils ne reçoivent pas Christ dans sa grâce et sa vérité dans leur cœur, qui viennent de lui? Car Adam et Ève, en mangeant de ce que Dieu avait défendu, apportèrent la mort sur eux et sur leur postérité qui a péché. Romains 5, 12. Et maintenant Christ, le second Adam, a dit qu'il est le pain venu du ciel, et qu'à moi de manger ce pain venu du ciel. Qu'ils donnent, ils n'ont pas la vie en lui. Ainsi, par le manger est venue la mort, et par le manger revient la vie, ce n'est pas par le parler. Et il donne aujourd'hui son pain venu du ciel, car il est le pain céleste, le rocher et le fondement, Christ le même aujourd'hui courir, et ainsi pour toujours, pour tout son peuple, lui qui était mort et qui est vivant de nouveau, et qui vit au siècle des siècles, et règne en son peuple. Et maintenant, en ce jour d'évangile de Christ, la nouvelle alliance, Dieu écrit sa loi dans le cœur de son peuple et la met dans leur esprit, afin que tous le connaissent du plus grand au plus petit, et que nul n'ait besoin de dire à son frère « Connais le Seigneur », ce dont des milliers rendent témoignage, cette loi d'amour, de foi et de vie, afin que tous puissent lire ce que Dieu met dans leurs esprits et écrit dans leur cœur. Et ceux-là sont les enfants de la Jérusalem céleste, qui est leur mère à tous. Ils ne peuvent reconnaître aucune mère ici-bas en dehors de la Jérusalem céleste, pas plus que les chrétiens des temps primitifs. Et ceux-là sont l'Église des premiers-nés inscrits dans les cieux, vêtus du soleil, et la lune sous ses pieds. Toutes les églises voient culte, religion et docteur changeant. Tout cela change comme des choses changeantes, car la lune change mais le soleil ne change pas. Il vêt ses membres vivants, lui qui est au-dessus de sa maison, sacerdoce royal offrant à Dieu des sacrifices spirituels, non charnels, par Jésus-Christ. Et lorsque Christ envoya ses disciples prêcher l'Évangile, ce n'était pas avec la peine des prisons, des gibets, du feu, et la confiscation des biens de ceux qui ne voulaient pas croire et les recevoir. C'est pourquoi il est temps que tous ceux qui professent le christianisme rengainent l'épée charnelle en matière de religion et obéissent au commandement de Christ, qui a dit qu'il n'était pas venu pour détruire la vie des hommes, mais pour les sauver, et par conséquent aimez Dieu et Christ, et les uns les autres et vos ennemis, car l'amour est la voie la plus excellente, au-dessus de toute cymbale retentissante et de l'airain qui résonne, car ceux qui demeurent dans l'amour demeurent en Dieu. Post-scriptum et vous tous, docteurs, qui raillez et vous moquez de l'impulsion ou du mouvement de l'Esprit de Dieu, vous n'auriez jamais eu les Saintes Écritures, dont vous faites un commerce, si les saints hommes de Dieu ne les avaient pas proclamées comme ils étaient poussés par le Saint-Esprit de Dieu, et cela montre que vous vous êtes égarés loin du Saint-Esprit de Dieu, dans lequel étaient les apôtres, ainsi que dans son mouvement et la communion en lui, qui procède du Père et du Fils. Et comme l'apôtre dit à l'Église du Christ, « Afin que je le connaisse, lui, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances étant rendue conforme à sa mort. » Phil 3:10. Voilà la vraie connaissance de Christ et la véritable conformité. Et ceux qui sont conformes à Christ, qui a dit qu'il est d'en haut et non de ce monde, ceux-là ne sont pas conformes à ce monde. Et maintenant, vous tous qui portez le nom de chrétien, que quiconque prononce le nom de Christ se détourne de l'iniquité. 2 Tim 2:19. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Rome 8:9. Et l'apôtre dit à l'Église du Christ que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. 1 Cor 12:3. Et le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Jean 15:26. Et encore l'apôtre dit aux Corinthiens, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas en vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez réprouvés, éprouvés et rejetés. » 2 Cor 13:5. Et encore l'apôtre dit aux Romains, « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, et c'est la parole de la foi que nous prêchons. » Rome 10:8. Et encore l'apôtre dit, le mystère caché de tout temps et de tout âge, mais maintenant manifesté aux saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les nations. C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire que nous annonçons, avertissant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter tout homme parfait en Christ Jésus. Col 1:26-28. Maintenant, que tous ceux qu'on appelle chrétiens considèrent ces écritures mentionnées ci-dessus. Connaissez-vous le Saint-Esprit et l'Esprit de Christ qui vous gouvernent, sinon, comment êtes-vous à Christ, et comment pouvez-vous l'appeler Seigneur? Christ est-il en vous, et la parole de foi est-elle dans vos cœurs et dans vos bouches, afin de lui obéir et de la mettre en pratique? Oh! Et soin de l'homme caché du cœur et de la vérité dans les entrailles, elle est auprès du Seigneur d'un grand prix, ayez du sel en vous-même pour en donner la saveur, et de l'huile dans vos propres lampes, afin de ne pas être comme les vierges folles, faites fructifier vos propres talents, et ne soyez pas comme le serviteur paresseux, car la manifestation de l'Esprit de Dieu est donnée à chacun pour l'utilité de tous. Et ne soyez pas seulement des parleurs ou des auditeurs de la parole de Dieu, mais des pratiquants, de peur que vous ne trompiez vos propres. Car la religion pure et sans tache devant Dieu le Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et de se garder soi-même sans souillure du monde. Tous ceux qui professent le christianisme doivent venir à cette religion pure, qui les gardera des souillures du monde, et ainsi cette religion est au-dessus de toutes les religions du monde et de leurs souillures, et elle maintient dans la pure, sainte tendresse et l'exercice de visiter les veuves et les orphelins. Ainsi que Dieu Tout-Puissant préserve en elle tous ceux qui professent vraiment le christianisme. Amen. Et l'apôtre a dit aux vrais chrétiens, « Vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Et encore l'apôtre a dit, « Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu ?» 2 Cor 6:16. Tous les chrétiens qui professent le christianisme devraient venir à cette connaissance que leurs corps sont les temples de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les Juifs avaient un temple extérieur, mais Étienne dit dans le Nouveau Testament, « Le trésor n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. » Actes 7:47-49. Mais comme auparavant, Dieu a dit, « J'habiterai en eux et je marcherai en eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple, et leurs corps sont les temples du Seigneur et de son Saint-Esprit, et tous ceux qui professent le christianisme devraient le savoir. » Et encore l'apôtre a dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. » 1 Cor 3:16-17. Ainsi tous ceux qui professent le christianisme doivent savoir que l'Esprit de Dieu habite en eux, que leurs corps sont le temple de Dieu, et prendre garde de le souiller, de peur que Dieu ne les détruise, car Dieu est saint, et il veut que son peuple soit saint. Et Christ dit aux pharisiens, qui étaient de grands professeurs extérieurs de l'Ancien Testament, que le royaume de Dieu ne vient pas avec apparence. On ne dira point « le voici » ou « le voilà » car voici le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Luc 17:20-21. Maintenant, vous tous qui vous dites chrétiens, avez-vous trouvé le royaume de Dieu au-dedans de vous? Christ dit que le royaume des cieux est semblable au levain qu'une femme cacha dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte fût levée, et encore Christ dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde. Vous qui professez le christianisme, avez-vous trouvé ce royaume, et la perle cachée dans votre champ? Venez allumer vos chandelles et balayer votre maison, afin de trouver le trésor céleste dans vos vases de terre, vous qui l'avez cherché au dehors, et afin de connaître le levain du royaume qui doit faire lever vos âmes, vos cœurs et vos esprits. En une seule pâte céleste, comme vous pouvez lire Matthieu 13, Luc 15, et l'apôtre a dit, « Les choses de Dieu, nul ne les connaît sinon l'Esprit de Dieu. » Or nous avons reçu non l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu qui les lui révèle, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données gratuitement. 1 Cor 2, 14-12. Ainsi tous ceux qui se disent chrétiens doivent venir à l'Esprit de Dieu en eux la lumière et la parole dans leur cœur, s'ils veulent connaître Dieu et Christ, et les choses de Dieu qu'il leur donne gratuitement, sans argent et sans prix. Et Ésaïe a dit, « Ô vous tous qui avez soif, venez aux eaux, et vous qui n'avez pas d'argent, venez. Et vous aurez du lait et du vin sans argent et sans prix. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour ce qui n'est pas du pain, et votre travail pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc avec attention, et mangez ce qui est bon, et que votre âme se délecte de mes succules. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. » Ésaïe 55, 1-3. N'est-il pas temps maintenant que tous les chrétiens écoutent le Seigneur par son esprit, et viennent à ses eaux gratuites de vie, afin que leurs âmes vivent, et l'esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie? Apoc 22, 17. Voici les appelants gratuits à l'eau gratuite de la vie, sans argent et sans prix. Et le Seigneur a dit, « Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous toutes les extrémités de la terre, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. » Ésaïe 45, 22. Or Dieu ayant répandu son esprit sur toute chair, afin que par son esprit tous puissent se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ et voir leur salut. Et de nouveau le Seigneur a dit, « Toutes les extrémités de la terre verront le salut de Dieu, et cela doit être par son esprit, car le Seigneur a dit, « Ma justice subsistera à jamais et mon salut de génération en génération. » Ésaïe 51, 8, 52, 10. « Votre force consiste à demeurer tranquille, c'est-à-dire dans l'esprit et la puissance de Dieu. » Ésaïe 30, 15. « Ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force, ils s'élèveront avec des ailes comme les aigles, ils courront et ne se fatigueront point, ils marcheront et ne se lasseront point. » Voilà donc la consolation de tous ceux qui s'attendent au Seigneur, dont la force consiste à demeurer tranquille ou à demeurer immobile et voir le Seigneur leur salut. Et tous les enfants du Seigneur seront instruits par le Seigneur, et grande sera la paix de ses enfants, et ils seront établis dans la justice. Ésaïe 54, 13, Jean 6, 45. Et les nombreuses armes formées contre eux ne prospéreront pas, et toute langue qui s'élèvera contre eux en jugement, les enfants de Dieu la condamneront, eux qui sont instruits de lui. Et nous savons que bien des armes ont été formées contre nous, et que bien des langues se sont élevées en jugement contre nous qui sommes instruits de Dieu. Mais Dieu a retenu les armes, et donné puissance à ses enfants de condamner leurs faux jugements et leurs mauvaises langues. Maintenant, concernant la prière et le chant, l'apôtre a dit, « Je prierai par l'esprit, et je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, et je chanterai aussi avec l'intelligence. » Et l'apôtre Jude exhorte l'Église du Christ à prier par le Saint-Esprit. Jude 20, 1 Cor 14-15. Ainsi, il ne leur a pas donné de livre pour prier. Prier par l'Esprit et prier par le Saint-Esprit, ce n'est pas prier avec des livres. L'apôtre a dit, « L'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce qu'il intercède pour les saints selon la volonté de Dieu. » Rome 8, 26-27. Mon désir est donc que tous viennent à ce Saint-Esprit, ou Esprit-Saint, dans leur cœur par lequel ils prient Dieu les uns pour les autres et pour tous les hommes et louent Dieu pour ses miséricordes qui durent à toujours. L'apôtre a dit, « Dieu nous a révélé ces choses par son Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » 1 Cor 2, 10. Et encore l'apôtre a dit, « La justice de Dieu est révélée de foi en foi. » Rome 1, 17. Et encore l'apôtre a dit, « L'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas selon l'homme. » Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par révélation de Jésus-Christ. Galates 1, 11-12. Or, quelqu'un peut-il prêcher la justice de Dieu, et la foi du Christ, et les profondeurs de Dieu, et l'évangile du Christ, si ces choses ne lui sont révélées par l'Esprit de Dieu, comme elles le furent à l'Église du Christ au jour des apôtres? Et l'apôtre a dit, « Lorsqu'il plut à Dieu, qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et m'a appelé par sa grâce, de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonce parmi les païens. » Galates 1, 16. Et le Christ a dit, « Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Matthieu 11, 27. Or, peut-on être ministre ou prédicateur du Fils de Dieu ou du Père sans cette révélation, puisqu'on ne peut connaître le Fils ni le Père que par révélation? Ainsi donc, nul ne peut prêcher véritablement Dieu ou Christ s'il ne les connaît pas, à moins que le Christ ne se révèle, lui et son Père à chacun, ce que, béni soit Dieu, il a fait pour des milliers en ce siècle, qui le prêche gratuitement, lui et le Père, qui marche dans la lumière comme il est dans la lumière, et ont communion avec le Père et le Fils, et les uns avec les autres, béni soit Dieu à jamais. George Fox, témoignage de l'Écriture contre la persécution en matière de religion, et exhortation à abolir toutes les lois de la chrétienté faites pour contraindre ou lier les consciences délicates, ce qui est la prérogative de Dieu. Haman aurait détruit toute la descendance des Juifs parce que leurs lois, leur religion et leur culte étaient contraires à Assuérus, le roi, mais Haman lui-même fut détruit, lui qui disait qu'il n'était pas dans l'intérêt du roi qu'ils vécussent, mais le roi vit que c'était dans son intérêt qu'ils vivent et qu'il ait leur liberté. Esther 3, 5. Puis le Christ reprit ceux qui auraient voulu que le feu descendît du ciel pour détruire la vie de ceux qui ne voulaient pas le recevoir, et il leur dit qu'ils ne savaient pas de quel esprit ils étaient, et par conséquent comment ceux qui, depuis les jours des apôtres, ont détruit des vies humaines à cause de la religion et du culte, ont-ils su de quel esprit ils étaient, eux qui n'ont pas prié pour que le feu descendît du ciel pour les détruire, mais ont allumé des feux sur la terre pour les détruire. Et de tels hommes n'ont-ils pas été pires, et plus ténébreux, que ceux que le Christ reprit, qui auraient voulu que le feu descendît du ciel pour consumer ceux qui ne voulaient pas le recevoir? Et ne sont-ils pas sous une grande réprimande? Le Christ chassa à coups de fouet les acheteurs et les vendeurs hors du temple de Dieu, mais nous ne lisons pas qu'il en ait jamais fait entrer aucun à coups de fouet. Et le Christ a dit, « Laissez croître ensemble l'ivraie et le blé jusqu'à la moisson, qui est la fin du monde, de peur qu'en arrachant l'ivraie ils n'arrachent aussi le blé, et à la fin du monde, le Christ enverra ses anges, qui seront les moissonneurs. Et les anges ne sont-ils pas des esprits, et non des hommes donc seuls les anges doivent agir contre les méchants. » Le Christ dit à Pierre de remettre son épée dans son fourreau, et dit, « Tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée, et Pierre, ou l'un quelconque des apôtres et disciples du Christ, a-t-il jamais, par la suite, tiré l'épée charnelle de son fourreau, ou fait usage d'armes charnelles pour défendre l'Église du Christ, la religion, le culte ou la foi? Mais au contraire, le Christ dit à Pierre de remettre son épée, et il guérit l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur que Pierre avait coupé. C'était un signe de l'évangile de guérison, et l'apôtre a dit que les armes de leur guerre n'étaient pas charnelles, mais spirituelles, et qu'ils ne luttaient pas contre la chair et le sang. Or, toute la chrétienté, qui, depuis les jours des apôtres, a défendu et maintenu son Église, sa foi et son culte avec des armes charnelles, et a lutté contre la chair et le sang, ses armes et sa guerre n'ont-elles pas été charnelles et non spirituelles, comme l'étaient celles des apôtres et de l'Église du Christ au temps des apôtres? Et par conséquent, ceux qui ont tiré l'épée pour défendre leur religion, leur Église, leur foi et leur culte, n'ont pas été dans l'esprit où étaient le Christ et les apôtres, mais dans l'esprit du destructeur. Et ceux qui ont utilisé ces Écritures pour persécuter au sujet de la religion, ne les ont-ils pas détournées? Disant que toute âme soit soumise aux autorités supérieures et obéisse à toute ordonnance humaine pour l'amour du Seigneur, pour punir les malfaiteurs. Et l'apôtre vous dit quels étaient ces malfaiteurs, des meurtriers de père, des meurtriers de mère et des parjures. Mais l'apôtre ne dit pas que toute âme soit soumise aux autorités supérieures et obéisse à toute ordonnance humaine pour punir les gens à cause de la religion, de la foi et du culte, et parce qu'ils ne veulent pas être de leur Église, car si l'apôtre l'avait entendu ainsi, pourquoi n'était-il pas soumis à la religion des Juifs, et à celle de César, l'empereur romain, et à celle de Diane? Mais l'apôtre dit à l'Église du Christ qu'elle ne devait ni toucher ni goûter les doctrines, commandements et ordonnances des hommes, et il dit que le Christ avait aboli la loi juive des ordonnances et des commandements. Et par conséquent, les chrétiens n'étaient pas tenus d'y être soumis, ni aux païens, puisqu'ils ne devaient ni toucher, ni goûter, ni manier ces choses qui, disait-il, périssent par l'usage. Et ne lisez-vous pas dans l'Apocalypse comment c'était la bête, dans la puissance du dragon, qui contraignait tous, petits et grands, à se conformer, et à l'adorer, lui et son image, et à la recevoir, et à être de sa religion? Mais Jean ne vous dit-il pas que la bête fut jetée dans les temps de feu? Et Jean ne vous dit-il pas que le sang des prophètes et des martyrs de Jésus a été trouvé dans Babylone la grande mystère, la mère des prostituées ou la fausse église? Et qu'elle était ivre du sang des saints et des martyrs de Jésus, et que les habitants de la terre furent enivrés du vin de sa fornication astérisque, ce qui les rendit furieux, et les poussa à s'acharner contre les saints et les martyrs de Jésus, et que vous dit Jean que fut la fin de cette prostituée, ou fausse église. Astérisque le « vin de ses fornications », c'est la promesse de la fausse église que l'on peut vivre comme on l'entend, en embrassant, forniquant avec les passions et les plaisirs du monde, sans craindre la désapprobation de Dieu. Ainsi le monde s'est enivré de ses plaisirs permis adultères par amour des passions, des plaisirs, de l'orgueil et de l'avidité du monde, et lorsque quelqu'un contestait cette présomption, il s'irritait contre lui parce qu'il suggérait qu'il vivait, dans la chair, une vie sans Dieu, dans un faux salut. Et ne lisez-vous pas, lors des dix persécutions, quels ravages les rois et empereurs païens firent parmi les chrétiens, au jour des dix persécutions, et n'était-ce pas parce qu'ils ne se joignaient pas à eux et ne se conformaient pas à eux dans leur religion et leur culte? Et par conséquent, n'est-il pas temps que tous ceux qui professent le christianisme déposent leurs armes charnelles et remettent leurs épées extérieures dans leurs fourreaux, comme le Christ l'a commandé, ces épées avec lesquelles ils ont défendu leur religion, leur église et leur culte, et qu'ils viennent aux armes et aux combats spirituels dont les apôtres se sont servis. Et souvenez-vous de l'exemple de l'ancien Caïn, ce vagabond et errant loin de la vraie foi, qui tua le juste Abel, et souvenez-vous d'Ismaël, persécuteur de la postérité légitime. Et l'apôtre a dit, « Celui qui est né selon la chair persécute celui qui est né selon l'esprit. Il en est de même maintenant, car nous ne lisons jamais que celui qui est né de l'esprit est persécuté qui que ce soit. » Et le Christ Jésus a dit, « Aimez vos ennemis, et aimez-vous les uns les autres, et c'est à cela que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples, et par conséquent, tous ceux qui professent le Christ devraient obéir à son commandement. » Nebuchadnezzar fit proclamer par un héraut que quiconque ne se prosternerait pas devant son image serait jeté dans la fournaise ardente, mais le Seigneur changea son dessein et sauva son peuple. Et le Seigneur, après cela, ne lui fit-il pas connaître que le trésor dominait sur les royaumes des hommes? Que nul héros, dès lors, ne crie plus en chrétienté sous peine de feu de corde, d'emprisonnement et de confiscation des biens de ceux qui ne veulent pas se courber, tomber et adorer l'image religieuse d'autrui, car ce ne peut être la vraie religion, puisque le Christ n'a jamais donné un tel commandement, lui qui envoya ses disciples prêcher l'évangile à toutes les nations, mais non avec la peine du feu de la corde, du gibet, de la prison et de la confiscation des biens de ceux qui ne le recevraient pas, ni eux met la poussière de leurs pieds. Pharaon et son armée n'étaient-ils pas de grands persécuteurs et destructeurs d'enfants? Et qu'est-il advenu de lui et de son armée? Ne furent-ils pas détruits dans la mer à la fin, par la puissance du Seigneur, lui qui entendit les gémissements de son peuple dans ses souffrances? Et Hérode n'était-il pas un grand persécuteur du peuple du Seigneur, lui qui tua de jeunes enfants et qui aurait voulu tuer le Christ? Mais le Seigneur le délivra de sa main, et par conséquent il est temps d'abandonner toute persécution au sujet de la religion, car cela n'est pas de Dieu, car l'apôtre a dit, « Celui qui est son frère est un meurtrier, et la vie éternelle ne demeure pas en lui. » Mais celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, car Dieu est amour. David ne devait pas bâtir le temple extérieur, parce qu'il avait été un homme de sang, dans la guerre extérieure, sous l'ancienne alliance. Comment donc pouvez-vous, vous qui avez versé tant de sang et dépouillé tant de personnes dans leur corps, leur vie et leurs biens au sujet de la religion, de la foi et du culte, édifier une maison ou un temple spirituel dans le Nouveau Testament, vous qui avez été hors de l'esprit paisible du Christ Jésus? Si on ne devait pas être bâti avec du sang, dans l'Ancien Testament, par conséquent, ce qu'on appelle la chrétienté, dans le Nouveau Testament, va-t-elle bâtir le Sion céleste avec du sang, des persécutions, des prisons et la confiscation des biens? Lorsque le Christ dit clairement à ceux qui auraient voulu que l'on détruisît la vie d'hommes qui ne le recevaient pas, ils ne savaient pas de quel esprit ils étaient, et comment pouvez-vous savoir de quel esprit vous êtes, vous qui avez mis à mort, emprisonné jusqu'à la mort, et ruiner tant de personnes par la confiscation de leurs biens à propos de questions de foi, d'église, de religion et de culte. Et comment pourrions-nous confier nos corps et nos âmes à ceux qui ne savent pas eux-mêmes de quel esprit ils sont? Le Christ Jésus, qui disait souvent au peuple et à la multitude, « Que celui qui a des oreilles entende », de sorte qu'il ne persécutait personne qui n'avait pas d'oreilles pour entendre, ni ceux qui se bouchaient les oreilles ou fermaient les yeux, et ne voulaient pas voir de leurs yeux ni entendre de leurs oreilles, de peur d'être convertis. Et le Christ n'a mis en prison, ni persécuté, ni confisqué les biens d'aucun de ceux qui n'entendaient pas et ne se conformaient pas à sa religion, à sa voix, à son culte et à son Église. Mais souvent, comme il a été dit auparavant, le Christ disait « que celui qui a des oreilles entende » et les laissait à leurs oreilles. Et Jean, dans l'Apocalypse, dit aux sept Églises « que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises ». Il ne dit donc pas que celui qui n'entend pas ce que l'Esprit dit aux Églises, et ne se conforme pas, doit être jeté en prison, ses biens confisqués et bannis. Le Christ n'a donné aucun tel commandement, ni ses apôtres, mais son commandement est que nous nous aimions les uns les autres, et que nous aimions nos ennemis. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, ainsi, celui qui ne demeure pas dans l'amour ne demeure pas en Dieu, et celui qui est son frère est un meurtrier, et aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Et Jean ne dit-il pas, dans l'Apocalypse, que c'était la bête, dans la puissance du dragon, qui contraignait tous, petits et grands, à l'adorer, lui et son image. Et ne lisez-vous pas que la bête et le dragon furent jetés dans l'étang de feu, ainsi que tous ses partisans et adorateurs. Et par conséquent, n'est-il pas temps que tous ceux qui professent le Christ se repentent et se réforment, et viennent aux armes et à l'armure spirituelle des apôtres, concernant la foi, l'Église, la religion et le culte de Dieu. George Fox, Doctrine Book 6, Continued Back to Doctrine Index. Le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance de transformation de Dieu par la croix, laquelle conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.